Vous écoutez l'émission Associativement Vôtre sur RTVFM.
Aujourd'hui, on reçoit Dominique Dubé. Bonjour Dominique.
Bonjour Anne.
Alors, vous êtes ingénieur astrophysicien et vous avez un parcours qui me semble bien intéressant et pas du tout dans les étoiles, pas du tout éloigné de la réalité. Votre vie professionnelle s'est beaucoup déroulée sur Lyon. Racontez-nous un peu cette période de votre vie.
Oui, alors donc j'étais ingénieur électronicien à l'Observatoire de Lyon et spécialisé dans la commande automatique pour la réalisation d'instruments en astrophysique qui, après leur mise au point, partaient en mission, donc dans des observatoires situés sur des lieux privilégiés d'observation pour justement mettre mise en application et observer le ciel avec toutes ses merveilles.
Et on peut se demander alors pourquoi à Lyon, puisque finalement on va plutôt volontiers faire des observations dans des endroits qui sont très éloignés et dépourvus de pollution lumineuse.
Oui, c'est vrai, cette question revient souvent d'ailleurs, oui. On nous la pose souvent. En fait, si on refait l'histoire, l'Observatoire de Lyon est un observatoire de grande ville, comme vous pouvez vous en douter, et il a été créé à une époque où la France et l'Allemagne étaient en guerre, guerre tout court, guerre économique, guerre scientifique, guerre technologique. Et après la guerre de 1870, les Français se sont rendus compte qu'ils étaient en retard dans le domaine de l'astronomie. Et donc, ils ont mis vraiment le paquet pour créer de nouveaux observatoires pour rattraper ce retard. Et c'est à cette époque qu'a été créé l'Observatoire de Lyon. Donc, ils observaient, parce qu'à cette époque-là, il y avait toutes les cartes, l'astrométrie, toutes les cartes du ciel à faire. L'observation était moins exigeante qu'aujourd'hui. Toutes les cartes du ciel n'étaient pas encore tout à fait au point.
Et le fait d'être à Lyon, vous expliquiez tout à l'heure, avant qu'on se rencontre, que c'était aussi un lieu où on pouvait avoir accès à certaines pièces, faire de la formation, enfin des choses qu'on n'a pas forcément partout ailleurs.
C'est pourquoi l'Observatoire de Lyon existe toujours. De même que l'Observatoire de Marseille, il y en a à peu près 8 en France, hein, Marseille, Nice, Toulouse, Bordeaux, Besançon, Strasbourg. Et ces observatoires existent toujours, pourquoi ? Parce que d'abord ils sont dans des grandes villes universitaires, donc vous avez des astrophysiciens qui sont professeurs dans les universités scientifiques. Ces observatoires sont des lieux de création, vous avez donc des ateliers de mécanique avec bureaux d'études, des laboratoires d'optique, des laboratoires d'électronique, automatique, informatique, scientifique. Et puis aussi, il y a tout un aspect, c'est ce qu'on appelle le dépouillement, le traitement des observations. Les astronomes qui partent avec leurs nouveaux instruments dans des sites privilégiés qu'on appelle observatoires de mission, à leur retour, ils ramènent des masses de données considérables qui nécessitent des mois de travail. Donc de dépouillement, de traitement des résultats et éventuellement de publication. Et ceci, on le fait à Lyon pour ce qui concerne l'Observatoire de Lyon.
Dans des équipes, on n'en a pas parlé, mais je pense que l'effectif doit être important.
Alors, l'Observatoire de Lyon rassemble actuellement pas loin de 100 personnes. Il y a donc des astrophysiciens, donc des chercheurs purs, et il y a tout le domaine technique, donc des concepteurs, comme je disais, d'instruments, donc des ingénieurs et techniciens en optique, en mécanique, en électronique,
donc en informatique. Donc vous êtes dans la conception des outils, mais vous allez aussi sur le terrain. Vous êtes arrivé d'aller faire des missions.
Mais j'ai passé beaucoup de temps de ma vie en mission. Alors, proche d'ici, il y a un observatoire qui doit vous être familier, je pense, qui est l'Observatoire de Haute-Provence.
Tout à fait, oui.
Et c'est un observatoire dans lequel j'ai passé beaucoup de temps et auquel je suis très attaché, parce que quand je suis arrivé à l'Observatoire de Lyon, on m'a envoyé là-bas pour me former aux observations. Donc, j'ai été formé à observer le ciel, aux techniques d'observation, donc à l'Observatoire de Haute-Provence, où j'ai effectué des dizaines de missions. Plus tard, donc quand j'ai eu la responsabilité de la création d'instruments au niveau de l'électronique, eh bien, je partais toujours là-bas à l'Observatoire de Haute-Provence tester les instruments avant de les envoyer plus loin. C'était des tests en réel sur le ciel qu'on ne pouvait pas faire à Lyon, pour deux raisons, qualité du ciel et grosseur des télescopes. L'Observatoire de Haute-Provence a un télescope qui a été longtemps le plus grand d'Europe et qui a un miroir de diamètre 2 mètres de diamètre.
Ça reste le premier ou c'est... Non.
Plus maintenant, mais l'Observatoire de Haute-Provence, j'incite d'ailleurs tous les Provençaux à aller le voir, il n'est pas loin d'ici, hein, 90 km. Et il doit sa survie parce que maintenant les exigences sont telles qu'on essaye toujours d'aller observer plus haut,
oui.
Dans des endroits où le ciel est encore meilleur. Et donc l'Observatoire de Provence qui est quand même assez bas, à 650 mètres d'altitude, mais il a eu, c'est dans cet observatoire qu'a été découvert la première exoplanète en 1995 par Michel Mayor, un astronome suisse, et sur un appareil Élodie qui a été fabriqué à l'Observatoire de Provence. Et les Français ont été les premiers au monde à détecter une planète qui tournait autour d'une autre étoile que le Soleil. Et tout le monde cherchait, les Américains ont mis des gros efforts, et c'est la France, à l'Observatoire de Provence, qui a été la première à découvrir cette exoplanète. Et ce qui fait que maintenant, ça lui doit sa survie, et c'est un peu un pionnier, un leader, il continue dans ce domaine.
En effet, c'est une belle prouesse. Si vous voulez, on va faire une petite pause musicale pour se retrouver ensuite.
Es que conoces a la tira, una dulzura de la vida, que representa el amor.
Estoy desesperado cada día, para decirte que te va, no volverá, se me va a hacer tiempo. Y no te ha valu de todo, por ese, mes envie de t'envoler, je me sens seul souvent.
Je sais les dits, j'ai déconné, tout simplement je peux pas gérer.
Loco yo de ti,
mi paso conseguí, no me pas tu m'as promis.
Loco yo de ti,
pense à moi dans chaque étoile que tu vois briller dans la nuit.
Mi amor eres pour qui, sai que no me posso più.
Non posso più, ti
piatti non, che il mio cuore per te non si fermerà mai.
J'ai bien reçu tes quelques lettres, que des mots sans une promesse. Sans adresse, mais qu'en est-il à présent?
Estoy desesperado cada día. Para decirte que te va, no volverá. Se me va ce tiempo.
Je voudrais t'écrire et te liker. La solitude, je la connais. Laisse-moi une faille, je veux kiffer, te retrouver.
Je voudrais t'écrire et te liker. La solitude, je la connais. Laisse-moi une faille, je veux kiffer.
Loco yo de ti,
paso conseguí, n'oublie pas tu m'as promis.
Loco yo de ti,
pense à moi dans chaque étoile que tu vois briller dans la nuit.
Y mi amor eres pour qui, sai que no me posso più.
Non posso più, ti piatti non, que mi cuore per te non si perderà mai.
Y te dirai un hombre, yo sé que te perdono. Je pourrais accepter, tout oublier si tu
l'émission associativement vôtre sur RTVFM.
Donc on retrouve Dominique Dubé, ingénieur astrophysicien, qui nous a un petit peu parlé donc de son parcours à l'Observatoire de Lyon. Et maintenant, on va peut-être voir un petit peu les missions qui vous ont bien éloigné de Lyon, je crois.
Alors, les premières missions se sont faites essentiellement à l'Observatoire de Haute-Provence. Je reviens à lui.
Oui.
Et les appareils donc, qu'on fabriquait, qui s'appelaient à l'époque des photomètres, on faisait de la photométrie, donc mesure de l'éclairement des étoiles. Les missions d'observation se déroulaient à l'Observatoire de Haute-Provence. Très vite, derrière, on avait équipé donc une coupole au sommet d'un glacier en Suisse, au Grand Nargrat, au-dessus de Zermatt, où on était à 3200 mètres d'altitude, dans des conditions plus privilégiées, puisque notre appareil observait dans le domaine de l'ultraviolet. Et l'ultraviolet, comme vous le savez, est barré dès qu'on descend dans les couches basses de l'atmosphère, ce qui fait que quand vous allez faire du ski, vous avez remarqué que vous prenez des coups de soleil beaucoup, très violents par rapport à la plaine.
Tout à fait.
Voilà, donc c'était... Et puis, après, donc ça a été beaucoup plus loin, d'abord le Chili, dans le désert d'Atacama, l'observatoire européen, situé à La Silla, donc un lieu mythique, où vous êtes dans un endroit désertique, loin de toute pollution chimique, lumineuse, atmosphérique. Vous n'avez pas d'avion qui vous laisse des traînées dans le ciel, pas de lumière. Et puis, enfin, c'est là où j'ai eu mes missions les plus, pour moi les plus extraordinaires. C'est au milieu du Pacifique, au sommet des volcans d'Hawaï, le Mauna Kea, donc qui domine toutes les îles d'Hawaï, à 4200 mètres d'altitude, où là, vous avez l'observatoire américain, qui pour moi est pratiquement le plus beau du monde, de par son site, et puis la qualité aussi de tous ces instruments, ces télescopes qu'on y trouve, et les équipes qu'on rencontre. Pour l'anecdote, c'est au sommet de ce volcan, donc le Mauna Kea, a été mis au point le LEM lunaire qui a permis donc l'alunissage des astronautes américains. Et c'est aussi à Hawaï qu'ont été réalisées les photos du site d'atterrissage, enfin d'alunissage d'Apollo. Donc ce site est, pour les Américains, est très important et la NASA est très présente à Hawaï.
En effet, oui, c'est une référence.
D'autres sites pour finir, Zelenchuk en Russie qui m'a marqué dans le Caucase, on pourra y revenir. Et puis les Canaries aussi, les Canaries, donc le volcan des Canaries. Donc c'est un observatoire espagnol, mais je dirais européen, parce que j'ai travaillé sur un télescope anglais aux Canaries, donc site espagnol, télescope anglais, et appareil français, donc c'est l'Europe.
Mmh. Et en Russie, les conditions étaient particulières, je crois, non ?
Oui, mais j'ai beaucoup apprécié le travail avec les Russes. Je pense qu'au niveau... culture, il y a beaucoup d'affinités avec la France, les Français. On a un peu un mode de pensée qui est assez proche au niveau du comportement, du respect aussi au niveau scientifique et technique. J'ai trouvé beaucoup de... Ça a été très agréable de travailler en Russie avec donc, les Russes à Zelenchuk, dans le Caucase, bien que les moyens techniques sont moins étaient moins généreux qu'aux États-Unis. Mais alors là-bas, on avait emmené un appareil, on était donc sur le 6 mètres russe. Alors là, ça vaut le coup aussi de refaire un peu son histoire. Pourquoi un 6 mètres ? Parce que les Américains, au moment de la guerre froide, on retrouve les mêmes problèmes que tout à l'heure, ils avaient le Mont Palomar, un télescope de 5 mètres de diamètre. Et les Russes, pour montrer que leur système politique économique était meilleur, ont réalisé un 6 mètres. Ils ont un très beau télescope, mais maintenant, il manque un peu de moyens pour des nouveaux instruments derrière. Donc si vous avez un instrument performant et qui mérite bien vous présenter, et c'est ce qui s'est passé. Donc on nous a intéressés et donc on a un appareil qui tourne sur le 6 mètres russe pour la haute résolution angulaire. Alors pour vous démystifier tout ça, c'est quoi la haute résolution angulaire? Pour vous expliquer un peu, c'est de voir un petit détail loin dans l'espace. Et l'image que je peux vous donner, vous êtes à Marseille et vous pointez avec un télescope une pièce de 1 euro au sommet du Mont Ventoux. Et vous voulez regarder l'inscription sur la pièce. Voilà la haute résolution angulaire, voir un détail loin, petit.
Ah oui, c'est bluffant, hein, c'est de la très haute résolution. Des souvenirs particuliers au niveau du transport du matériel, parce que si je ne me trompe, tout part en pièces détachées.
Oui.
Et tout doit être remonté sur place.
Exactement. Alors, un premier souvenir qui était un peu anecdotique, c'est que quand on a emmené notre télescope de 1 mètre au Grand Nargrat en Suisse, on était un peu précipité pour l'emmener parce que ça devait se passer au mois d'octobre et la neige arrivait. Et donc, on nous a obligés à aller un peu plus vite et notre télescope n'était pas prêt. Donc, il a fallu tout démonter, mettre en caisse, etc. Emmener au sommet du Grand Nargrat où on est monté avec un petit train à crémaillère, un télescope qui représentait 7 tonnes de matériel. Et il était acheminé au sommet de la coupole par une grue. Donc là, ça a été système D, etc. Donc des souvenirs. Mais où voilà, tout n'était pas bien, toujours bien préparé, mais on y est arrivé. Donc de beaux souvenirs. Et ce télescope est resté 8 ans là-bas, a fait des missions, donc, comme je disais, en photométrie. Donc là, c'était une belle anecdote.
D'autres missions encore ? Non, je crois que c'était à peu près les destinations qui vous avaient fait voyager un petit peu au-delà de Lyon.
Le Serga aussi, au-dessus de Grasse, un plateau de Cossol, où on a travaillé sur l'optique adaptative, on pourrait dire quelques mots, pour essayer de faire comprendre simplement. C'est l'optique qui s'adapte aux défauts. Les étoiles, la lumière des étoiles qui nous arrive est perturbée par l'atmosphère, donc il fait bouger l'étoile. Eh bien, on a des petits miroirs, très, très minces et très légers, et on a des systèmes automatiques qui étudient la perturbation et envoient une déformation qui est de la même, mais dans le sens opposé, ce qui fait que l'étoile ne bouge plus. On stabilise l'étoile, on appelle ça de l'optique active. Et pour cela, on a besoin d'étoiles de comparaison, et quand on ne les a pas, on se les crée, d'où une belle manip. On a peut-être un peu parlé tout dans la préparation, d'étoiles qu'on appelle pompeusement l'étoile artificielle laser.
Ah oui.
Et ça, on l'a fait à Pierrelatte, pas loin d'ici. Je pourrais vous en dire quelques mots.
Ah oui, on en reparlera après la pause musicale, si vous voulez bien.
RTVFM, première radio locale associative de Carpentras.
I just need to see you start a burning flame. Yeah. Cause you must come from outer space. You make me come to life. You make me come to life. Tonight, I don't even see that there's someone to blame. Yeah. You walk with elegance and grace. You make me feel alive.
Vous écoutez l'émission Associativement Vôtre sur RTVFM.
Alors, on retrouve Dominique Dubé, ingénieur astrophysicien, qui était en train de nous parler de quelque chose d'assez intriguant, mais il va nous en dire un peu plus, sur les étoiles artificielles laser.
Alors, l'étoile artificielle laser, elle a été conçue dans les années 2000, hein, entre 1995 et 2000, donc c'est quand même relativement récent. Les astronomes ont besoin d'étoiles de référence dans le ciel. Ils observent maintenant des objets très faibles, loin, et ils ne peuvent pas prendre de la lumière sur ces objets pour se référer, parce qu'ils n'en ont pas assez. Et souvent, ils n'ont pas d'étoiles brillantes, on appelle ça une étoile brillante, à côté. Donc l'idée, ça a été de créer, alors on appelle ça pompeusement une étoile, en fait, vous allez comprendre que ce n'est pas une vraie étoile, bien sûr.
C'est une source lumineuse.
Oui, ouais. Et qui, observée depuis la Terre, on croit voir une étoile. L'idée, c'est qu'on s'est rendu compte qu'à 90 km d'altitude, on a une couche d'atomes de sodium, vraisemblablement déposée par des chutes d'astéroïdes qui sont faites au cours des milliards et des millions d'années. Voilà. Et l'idée, c'est que si, avec un laser, vous utilisez donc un télescope comme canon de lumière, donc vous envoyez la lumière d'un laser qui va venir bombarder un endroit de cette couche où vous voulez, et en venant bombarder donc le sodium, les atomes de sodium, donc dans un atome, il y a un noyau, des électrons, les atomes de sodium vont être excités, et donc les électrons des atomes vont sortir des noyaux et retomber dessus, et en redescendant, ils vont émettre de la lumière, tout simplement, donc des transferts d'énergie. Et ce qui fait que depuis la Terre, on crée donc une tache qui correspond à peu près à 6 mètres de diamètre à 90 km d'altitude. C'est-à-dire 90 km d'altitude, vous êtes au-dessus des perturbations de l'atmosphère. Mmh. Et vu de la Terre, vous avez l'impression que c'est une étoile. Donc vous la créez où vous voulez, et c'est merveilleux, et ça marche. Alors, pour être un peu plus fin, mais je ne veux quand même pas rentrer trop dans les détails, en envoyant donc notre laser avec des niveaux d'énergie différents, on arrive, au début, on en avait une lumière qu'on appelait monochromatique, c'est-à-dire une seule lumière, la lumière du sodium, une lumière un peu jaune, comme vous connaissez les boulevards de ceinture. Et si vous envoyez des énergies un peu différentes, on arrive à créer des lumières polychromatiques et on arrive à aller de l'ultraviolet à l'infrarouge, proche, ce qui fait qu'on a le spectre d'une étoile, sachant que les corrections dans l'atmosphère sont différentes en fonction de la couleur, de la lumière. Oui, c'est un petit peu, c'est pour vous montrer que l'astronomie, c'est complexe. Donc, on est toujours à la recherche de la perfection qui n'existe pas, bien sûr.
Et ça s'est passé à Pierre-Latte, c'est ça?
Ça s'est passé à Pierre-Latte, exactement, dans les années 2000. On a fait des missions qui ont été extraordinaires parce qu'on n'était pas sûr des résultats. Et je vous dis que quand on a obtenu donc ces fameuses lumières, cette étoile artificielle, ça a été vraiment une grande joie.
Alors, il y en a qui vont dire que ça ne sert à rien d'aller dans les étoiles, de regarder le ciel alors qu'on n'a pas réglé tous nos problèmes sur Terre. Mais en fait, je pense que vos domaines dans lesquels vous exercez ont des retombées technologiques importantes. Vous parliez tout à l'heure même dans le domaine médical.
Voilà. Bon, un petit rappel quand même. L'astronomie, quand vous regardez votre montre, l'heure, c'est l'astronomie. La navigation, l'astronomie, qu'est-ce qu'elle a apporté à la navigation? Nos navigateurs, eh bien, ils se guidaient sur les étoiles. Alors maintenant, la technologie... on parlait des détecteurs d'images, CCD, donc ils doivent beaucoup à l'astronomie. Et on a eu, donc à Lyon, on a réalisé une collaboration avec le monde de la médecine, l'hôpital de la Croix-Rousse, donc un service de cardiologie, où on a appliqué une méthode utilisée en astronomie pour corriger les défauts de l'atmosphère. L'atmosphère, donc on a des couches d'air de températures différentes qui font que la lumière vibre. Donc, on a des perturbations de l'image. En cardiologie, quand vous faites une coronographie donc du cœur, vous ne pouvez pas arrêter le cœur du patient. Donc, l'image est floutée et on a un peu les mêmes...
Un phénomène comparable.
Comparable. Mmh. Il se trouve, donc, des liens humains ont fait que donc, j'ai pu être mis en relation avec un cardiologue de l'hôpital de la Croix-Rousse qui avait la particularité d'avoir une formation d'électronicien, donc toute une formation d'ingénieur, même s'il n'avait pas le titre parce qu'il n'avait pas l'application. Mais avec lui, donc on a mis en application ces techniques d'astronomie en cardiologie et ça marche. Ouais. D'ailleurs, dans les...
Et donc, c'est assez extraordinaire. Hein, voilà. D'autres domaines aussi, où on trouve des applications qui sont plus proches de nous. Vous parliez des capteurs d'image. Bon, c'est vrai que c'est ce qu'on a tous dans nos appareils numériques. Ça nous paraît évident, mais je pense que la recherche a évolué aussi grâce au domaine de l'astrologie, je pense. L'astronomie, pardon.
Bien sûr. Et par exemple, je vous rappelais l'histoire des Américains qui, au niveau des lanceurs, des fusées, étaient très en retard sur les Russes. D'ailleurs, c'est un peu toujours le cas. La preuve, c'est que maintenant, c'est les Russes qui envoient les spationautes dans la mission, dans la station internationale, spatiale. Mmh. Eh bien, donc, les Américains, comme ils ne pouvaient pas envoyer des gros poids, les Russes, bon, ils ont envoyé des ordinateurs qui pesaient lourd, etc., ils ont poussé leurs efforts de recherche sur la miniaturisation, d'où le développement, l'invention des microprocesseurs qui sont sortis dans les années 1971 et qui ont amené l'avènement des micro-ordinateurs dans les années 80, 80 et quelques. Et tout ceci, c'est en lien avec l'espace, qui elle-même est un lien direct, bien sûr, avec l'astronomie.
C'est vrai qu'on n'y pense pas beaucoup. Hein. Les premiers ordinateurs avaient des volumes astronomiques, c'est le cas de le dire. Ça tenait dans une pièce, maintenant ça tient dans une poche.
Complètement.
C'est quand même spectaculaire.
Ben oui, dans les microprocesseurs, les premiers, il s'appelait le 6800, il avait 6800 transistors. Maintenant, ils en ont des millions.
Ouais, c'est extraordinaire. Donc, Dominique Dubé, on va vous remercier pour ce moment passé ensemble, mais on vous retrouvera très certainement pour la prochaine émission du mois prochain. Et on vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.
Merci.
Au revoir, Dominique.
Sometimes when love is calling, I just try to take it slow. Oh, 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 oh. It's gone the other morning, like those angels in the snow. Oh, 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 oh. On our way to the bay, there's a by the way the sun shines on your face. Oh, oh, oh. If you say you'll stay, we can feel the love and dance the night away. We're drinking cocktails in the sun. DJ plays that song. You and I go all and on. We're just having fun. Feels so right, it must be wrong. We'll be up till dawn. Sometimes without a warning, I go and give someone my soul. You know, you leave and leave me longing for that special night once more. I'm up for more. On our way to the bay, there's a by the way the sun shines on your face. Oh, 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 oh. If you say you'll stay, we can feel the love and dance the night away. Drinking cocktails in the sun. DJ plays that song. You and I go all and on. We're just having fun. Feel so right, it must be wrong. We'll be up till dawn. Takes for love is just your heartbeat, and we can turn this thing to something great.